Good Morning Market, le club de la bourse.
Il est 8h40 sur BFM Business et sur AMC Live. On est avec Wilfried Galland. Bonjour, directeur bonjour. Général adjoint de Montpensier Arbevel, et avec Frédéric Loisel. Bonjour, gérant bonjour. De portefeuille chez Caero Capital. Je commence avec ce deal. Alors, pour la bourse, on y croit, hein, puisqu'on s'attend à une ouverture en fanfare. Etienne, avec plus de 1% de hausse du côté parisien. Frédéric Loisel, quand vous regardez l'accord qui a été annoncé, alors on n'a pas les détails. Chacun raconte un peu sa version des faits entre Américains et Iraniens. Ouais. Vous avez envie d'y croire comme les marchés ou vous dites j'attends un peu, j'ai été suffisamment déçu?
Non, on observe effectivement en fait avec satisfaction, notamment sur les marchés obligataires, une vraie détente. Donc ça, c'est intéressant, sur le pétrole également. Après, on suit une séquence en fait de 2 mois de stop and go permanent. Donc en fait, il va falloir véritablement voir et suivre sur les 2 mois qui s'annoncent en fait, sur les 60 jours de négociation sur des sujets qui sont
sur le nucléaire,
qui sont toujours pas réglés. Effectivement, le contrôle du programme de l'Iran et évidemment ce qu'on fait du stockage. Donc il y avait eu pas mal de propositions qui avaient été mises sur la table, notamment en fait, à l'intervention de la Russie. Pour le lieu de stockage. Donc on est content parce qu'effectivement le MOU qui était enfin le memorandum of understanding comme on dit en bon français en fait a été négocié âprement. Après les points techniques sont toujours en suspens.
C'est un accord pour une future négociation, Wilfried?
Oui, c'est un accord dont Donald Trump avait absolument besoin, d'abord parce que c'est la Coupe du Monde aux États-Unis et donc il fallait absolument qu'il puisse intervenir.
Et son anniversaire.
Et c'est son anniversaire. C'est la Coupe du Monde qui va se terminer le 19 juillet et donc il va avoir besoin pour la finale de ne pas être un pays en guerre. Le 4 juillet, on a les cérémonies du 250e anniversaire des États-Unis. Là aussi, c'était extrêmement important pour lui, beaucoup plus que préparer les midterms, hein. C'était important pour lui d'apparaître comme étant celui qui a mis un terme en tout cas à cette phase-là. Ce qu'on voit, c'est qu'on passe dans une autre phase. Même si on peut avoir des doutes sur le côté pérenne, on passe dans une autre phase, une phase où véritablement c'est d'abord et avant tout les diplomates qui vont parler, au moins pendant probablement 2 mois, et où la crainte numéro 1 de l'économie mondiale, qui était d'avoir une espèce de thrombose définitive au niveau d'Hormuz, s'éloigne. On n'a pas dit qu'elle était complètement écartée, mais en tout cas, cette crainte-là, elle s'éloigne. Et on avait des statistiques qui disaient que à partir du mois de juin, on y était, on risquait effectivement des pénuries dans un certain nombre de pays parce que on atteignait la limite de certains stocks stratégiques. Donc c'était très important de réouvrir au mois de juin le détroit d'Hormuz pour se redonner des marges de manœuvre. Ouais. C'est ce qui a été le cas. Maintenant, il faut voir comment est-ce que les négociations vont se dérouler, parce que c'est juste, en fait, 2 mois pour négocier.
Etienne, vous nous faites un petit point pétrole?
$84 pour le Brent, $80 pour le WTI, c'est deux références sur des plus bas de 3 mois ou presque, hein, sachant que, souvenez-vous, au début de ce conflit, le Brent était allé au-delà des $110. Donc on a quand même une baisse de $35 sur le baril de Brent. Pour rappel, juste avant cette guerre, hein, donc fin février, on était à 70. Donc là, on est à 13 petits dollars de ces niveaux d'avant-guerre. Sur les cours du gaz, ça se détend très nettement également, quasiment 5% de baisse pour le TTF. Reste à voir maintenant comment ça va se véhiculer sur les prix à la pompe, hein, parce que quand vous regardez les cours spot sur les prix de l'essence aux États-Unis, avant le début de cette guerre, on était quasiment à $2 le gallon. Ce matin, on est quasiment à $3. Donc, il y a encore du chemin à faire, typiquement pour les Américains, pour l'électorat de Donald Trump, parce que là, pour l'instant, à la pompe, ils voient toujours l'effet de cette guerre.
Frédéric Loisel, vous faites partie de ceux qui pensent que ça va se régler, c'est-à-dire qu'on rouvre le détroit et puis on a des pétroliers qui attendent et puis on y va, on fait couler le pétrole à flot, ou vous faites partie de ceux qui pensent que ça va prendre des mois de rétablir une situation normale?
Alors, ça peut être très compliqué, effectivement, ça va être plus compliqué qu'on l'anticipe de revoir effectivement les prix qu'on avait en dehors juste avant le conflit. Hein. On était autour de effectivement $70. La BCE, hein, par exemple, sur le pricing sur l'anticipation les hypothèses de la croissance européenne, on était sur $65. Donc, on est encore très loin des niveaux qu'on avait juste avant ce conflit. Donc oui, nous, ce qu'on estime en fait, c'est qu'on arrivera peu à peu effectivement à regagner, mais très lentement sur ces cours d'avant-guerre. L'idée en fait qui est plutôt intéressante aujourd'hui à regarder, c'est effectivement sur les banques centrales et effectivement l'évolution en fait de ce conflit iranien sur la croissance en Europe et aux États-Unis, on est plutôt dans l'idée qu'effectivement on va avoir des banques centrales qui sont beaucoup moins agressives sur le contrôle des anticipations d'inflation. Ah. Et ça, pour le coup, c'est plutôt ce qu'on perçoit comme une nouvelle assez intéressante.
Le pétrole baisse, pas de future hausse des taux, Wilfried.
Alors c'est effectivement en tout cas une menace de moins sur l'environnement monétaire. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le pétrole, c'est d'abord et avant tout un marché de demande. C'est pas un marché d'offre, en fait, à l'origine. Donc, si on a des chocs d'offres, évidemment, le pétrole réagit. Mais c'est véritablement la demande de pétrole qui pilote le prix. Et donc, toute la question sur ses coûts et sur le prix du baril, c'est est-ce qu'on va vers un ralentissement ou pas de l'économie mondiale? Les derniers chiffres étaient plutôt bons. À la fois aux États-Unis et en Chine, on était sur des chiffres qui étaient plutôt pas mauvais. Et donc, effectivement, si on a cette tendance à l'accélération ou en tout cas à la stabilisation de l'économie mondiale, on va probablement aller vers un baril de pétrole un peu plus élevé que celui qu'on avait au début de l'année, parce qu'on anticipait beaucoup plus de récession que ce qu'on anticipe aujourd'hui. Et on a un environnement économique et financier qui se met en place, si on n'a pas de choc supplémentaire, qui est plutôt favorable là, en ce moment. Donc c'est franchement une bonne nouvelle, je trouve.
Frédéric ?
Ouais, on a une vraie différence entre les États-Unis où effectivement on a une résilience absolument incroyable de l'économie à tous les chocs. Donc ça, c'est dû, on le sait, à un élément qui est central aux États-Unis qu'on n'a pas en Europe, à savoir la capacité à investir, notamment évidemment sur le secteur de l'IA. On investit beaucoup plus sur l'IA que sur la construction de bureaux aux États-Unis ou sur la construction d'infrastructures de transport. C'est juste pour donner en fait une échelle. En Europe, on n'est pas du tout dans cette configuration-là. On était fragile juste avant le démarrage du conflit, on l'est encore plus aujourd'hui. Donc il y a une accélération, pas un effondrement des indicateurs, mais vous regardez tous les indicateurs de confiance, les indicateurs de conjoncture avancée, de production industrielle dans une grande variété de pays sur le continent, c'est une image qui est assez inquiétante. Donc l'idée qu'on se fait, nous, c'est qu'après la hausse des taux qu'on a eue la semaine dernière, qui est une espèce d'assurance en fait pour contrôler les anticipations, oui. Et d'ailleurs les taux ont très bien réagi.
C'est pas pour ouvrir le détroit d'Hormuz, quoi.
Non, du tout. Mais en revanche, en Europe, on risque d'avoir une situation très très dégradée, absolument.
C'est pour communiquer, quoi, pour dire qu'on est là.
Une hausse de taux de communication.
Ouais. Ouais. Ouais.
Mais les taux ont bien réagi. Hein. Donc c'est l'essentiel.
Il dit c'est triste, Wilfried. Il dit c'était une hausse triste.
Bah oui, c'est une hausse triste. Parce qu'en fait, on a l'impression que la BCE s'est mise elle-même dans un espèce de
d'obligation,
seringue.
Ouais.
Voilà, en disant de toute façon, j'ai tellement communiqué que j'ai pas le choix, même si quand on écoute bien les différentes communications, on sent bien qu'il n'y a pas non plus une conviction folle.
L'unanimité quand même. Hein.
Oui. Oui, mais enfin bon, on sait très bien que pour qu'il y ait véritablement des dissensions à la BCE, ça veut dire qu'ils se sont envoyés des cendriers à la figure. Donc, donc là, voilà.
Non, je dirais qu'on est un peu méchant avec elle. Alors effectivement, il y a un narratif qui aujourd'hui consiste à faire passer cette hausse sur la liste noire de toutes les hausses qu'il y a eu dans l'histoire de la BCE, celle de 2008.
La liste des erreurs, quoi. Ouais.
Mais ils n'avaient pas trop le choix. Ils ont un mandat exclusif et unique, en fait, contrairement à la Fed. Et encore une fois, en fait, il y a beaucoup de choses qui dépendent des taux directeurs dans l'économie, donc les prêts à la consommation, les prêts aux entreprises en Europe. Mais il y a beaucoup de choses qui dépendent également des taux longs, donc en fait le financement des États, le financement hypothécaire. Et là, pour le coup, les marchés obligataires ont salué. Donc en fait, quand on salue dans un marché obligataire, c'est qu'on baisse les taux.
On baisse les taux. Ouais. L'autre, à part les taux, il y avait quand même un gros événement la semaine dernière, donc c'était l'IPO du siècle, oui. Avec SpaceX. Est-ce qu'on peut dire à la fin que c'était réussi? Vous dites quoi, vous, Étienne?
C'est quand même plutôt bien, très très bien. Le titre a gagné 30% dans les premières minutes vendredi. Finalement, on était à plus 19% à la clôture. C'est du vert quand même. Il faut que la première séance soit dans le vert. Bon, maintenant, reste à voir ce que ça va donner aujourd'hui et dans les prochaines semaines. Hein, sachant que, pour rappel, certes, ils ont levé 75 milliards de dollars, mais il y a encore une fenêtre d'ouverture pour 10 à 11 milliards sur les 30 prochains jours. Donc, il y a encore du papier qui va arriver. Est-ce que le marché va encore réussir à l'absorber? Est-ce que l'euphorie autour de SpaceX sera encore présente dans 10 jours, dans 15 jours ou dans 3 semaines? Pour l'instant, la question reste ouverte. Vous avez eu 350 milliards de demandes, ouais. Dont 100 milliards rien que sur la partie retail. Ce sont des chiffres, pour l'instant, qui ne sont pas officiels de Bloomberg, sachant qu'il y a eu tellement de demandes que concrètement, si vous souhaitez 100 euros, vous n'avez pas mis 100 euros. Vous avez mis 200, 300, 400, parce que vous savez très bien que vous n'allez pas être servi. Donc en fait, sur ces 4,6 fois la demande, au final, il y avait beaucoup moins, puisque en fait, à chaque fois, ça a été sursouscrit parce que vous saviez très bien que vous n'avez pas tout à voir.
Donc c'est ça le sujet, Wilfried, c'est pas tant que ça en fait.
En fait, c'est pas tant que ça. C'est-à-dire que entre 4 et 5 fois de surscription, alors oui, c'est bien, hein, c'est formidable. Moi, j'ai regardé un peu l'histoire dans des IPO un peu similaires. Facebook, c'était Facebook, c'est 2012. Hein, donc Facebook, c'était 20 fois. Snowflake, beaucoup plus récent, hein, 2020, c'était évidemment la folie du logiciel. Là, on était à 120 fois. Le volume offert. Donc c'est bien de faire 4,7 fois. Hein, c'est
avec des ouvertures au retail comparables
ou... Avec des ouvertures au retail qui étaient plus faibles sur Snowflake et qui étaient à peu près comparables sur Facebook. Parce qu'à l'époque ça s'appelait Facebook, maintenant ça s'appelle Meta, mais à l'époque ça s'appelait Facebook. Donc c'est un succès, clairement. L'IPO est un succès. Il va falloir attendre parce que tout a été fait dans les structures, on en a beaucoup parlé, pour que la demande soit d'une certaine manière obligatoire. Quand vous avez une intégration dans le Nasdaq, ouais, moins de 15 jours après, quand vous êtes de la gestion indicielle, et on sait que la gestion indicielle c'est extraordinairement important, vous êtes obligé d'acheter quasiment tout de suite. Donc, en fait, il faut attendre un petit peu de voir comment est-ce que la poussière va retomber autour de ce dossier. Ce qui va les aider aussi, c'est le fait qu'on a beaucoup de turbulences autour d'Anthropic et donc c'était une concurrence potentielle sur le spatial. Là, finalement, on se dit peut-être que le grand gagnant une nouvelle fois, ça va être Elon Musk. Donc peut-être que ça va l'aider. Attendons un petit peu d'avoir un peu plus de visibilité que la première séance.
Frédéric Loisel, comment vous avez regardé l'IPO de SpaceX?
Compte tenu des niveaux de valorisation, même avec un carnet d'autres à 4 ou 5 fois, c'est une extraordinaire performance, puisqu'effectivement, vous parliez des IPO précédentes, mais on n'était pas sur ce niveau de valorisation extrême, en fait. Hein. Et c'est vraiment la patte de Musk, ça. C'est la fanbase de retail explique que, par exemple, sur Tesla, vous payez Tesla 300 fois les revenus annuels, en fait. Juste pour donner une idée... on est sur des niveaux de valo pour Alphabet à 20. Donc, on est les revenus annuels de SpaceX, c'est 20 milliards. Alphabet dégage des bénéfices de 143 milliards. Donc, on est sur un phénomène très particulier, en fait, concernant les entreprises de...
Voilà, c'est irrationnel, c'est de l'émotion, quoi.
Il a une fanbase énorme, ouais, exactement. Les retail détiennent 40% de Tesla. Alors, c'est aussi un énorme confort pour un institutionnel. Vous savez que, de toute façon, sur les boîtes de Musk, en fait, vous avez l'analyse financière classique qui s'applique peu.
Oui.
Alors après, il y a un calcul rationnel. Hein. SpaceX, vous en avez parlé tout le temps, en fait, c'est la capacité à envoyer et à saturer l'orbite basse et d'avoir un quasi-monopole dessus. Et donc derrière, en fait, ce que joue le marché également, c'est l'idée que, de toute façon, tôt ou tard, il va développer son propre mobile. L'idée, c'est ça. Oui. Et donc la concurrence, effectivement, avec les compagnies télécoms, c'est peut-être ce qui est peut-être...
Donc c'est pas Mars, c'est un réseau de télécom.
Il y a Mars, parce qu'il a là... C'est Jules Verne, Steve Jobs et le docteur Follamour à la fois, en même temps.
Oui, mais à la fin, c'est un réseau de télécom, quoi.
Mais à la fin, c'est un réseau de télécom.
C'est un peu moins de la main.
C'est moins de l'amour, non, mais c'est ça, en fait, que vous
alors,
voyez derrière.
Il veut vraiment aller sur Mars, hein. Oui. C'est quelqu'un de plein de...
Parce que si c'est un réseau télécom, c'est pas les mêmes valorisations.
Non, c'est
absolument.
Ça.
Mais si vous avez le monopole, effectivement, sur... Imaginez que vous puissiez avoir sur votre mobile, en fait, une capacité à aller dans tous les pays du monde, ce que permet, effectivement, la connexion satellitaire, et non pas le changement, effectivement, d'opérateur à chaque fois que vous voyagez. Vous avez une capacité marketing colossale, en fait. Hein.
Ouverture dans une... Non, c'est la fin de l'émission dans 1:30. L'ouverture, c'est dans 7 minutes 20, le chrono. Ouverture, a priori, en fanfare. On a des bourses asiatiques, là, il y a Séoul, par exemple, qui a terminé en hausse de 5%.
Ah oui, bah alors là, c'est les semi-conducteurs. Hein. C'est vrai que vous avez quelques valeurs, une nouvelle fois, notamment du côté de SK Hynix et de Samsung, à chaque fois qu'ils font un petit peu la pluie et le beau temps. C'était du vert vif ce matin en Asie. Vendredi, les marchés européens avaient déjà commencé à acheter cet accord. Hein. On avait gagné 1,8% à Paris. L'Eurostox avait touché son record pour la première fois depuis le début de ce conflit. Là, en préouverture, plus 1,4% pour le CAC 40, plus 1,6% pour l'Eurostox 50, avec bien sûr les valeurs pétrolières, hein, parapétrolières, qui vont peser un petit peu sur la Bourse de Londres, hein, qui est très riche en valeurs pétrolières et minières, et dans une moindre mesure à Paris, avec Total Energy, qui va plomber un petit peu la tendance.
Sur les taux, ça s'est calmé aussi. Hein.
Moins 6 points de base pour le 10 ans français, qui revient sous les 3,6%. Le Bund revient sous la barre symbolique des 3%. Bon, néanmoins, 4, 5, 6 points de base de détente sur ces taux longs, c'est pas énorme. Hein. C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à une baisse un peu plus importante au vu de la baisse des cours du pétrole.
C'est bien.
Prenons ce qu'on nous donne.
On prend.
Sur les taux, ça fait toujours du bien. Merci beaucoup, Wilfried Galland et Frédéric Loisel, d'être venus ce matin dans la matinale de l'économie.